Pour faire un film, prenez des pinces à linge et un fil suspendu. Pour étendre les souvenirs et les avenirs, classés dans un désordre fulminant. Petite histoire de l'infini. L'infini était une fille joyeuse et voyageuse. Elle avait été baptisée ainsi par erreur par un gitan qui ne comprenait rien aux Chinois. Elle avait entendu parler d'un pays où la sérénité serait éternelle et l'harmonie accomplie. Un pays sans domination ni pouvoir, sans possession, dirigé par des femmes libres et bienveillantes. Seul havre de paix où il n'y avait pas d'ordinateur ni de conflit. Elle imaginait y manger des nouilles sautées dans des cassolettes préparées dans les petites caravanes qui longent les chemins sinueux, aux tuyaux de poêles tordus, dissipant des vapeurs et fumées, aux effluves de nouilles se mêlant au brouillard mystique, aux lanternes rouges comme le bonheur mystérieux, aux montagnes rebondies et courbes comme son sourire. Ainsi, elle partit en charrette, car le gitan lui avait dit « Lorsque vous êtes figée, madame, » il était très poli et un peu polisson, « devenez ambulante, infirme, soigneuse et hospitalière, une marchande ambulante, au défaut si charmant, un soin de notre jardin, l'accueil des habitants, sont les petites joies de nos mondes miniatures. » Le gitan parlait comme un médecin sans auspice. Elle traversa les pics arides et escarpés par des échelles et des ponts suspendus. Puis elle parvint au soleil rouge du sommet. Les arbres souriaient, contrairement à ce qu'indiquait son manuel de tourisme déprimant. Ils embrassaient le ciel littéralement, comme pour le soutenir dans son effort infini de concilier toutes choses dans l'univers et éviter qu'il ne tombe sur la montagne et les êtres qui l'enveloppaient d'un air léger. Pourtant, au loin, l'Himalaya semblait froid. Mais c'est parce qu'il était loin, sans doute, donc il était sans importance et tout petit, puisque l'objectivité est une propagande. Tout auprès d'elle, au contraire, la roche chauffait ses joues rondes et les branches en riaient aux éclats d'amandes incontrôlés et spontanés. Il se contorsionnait en équilibre précaire, mais pas de quoi en faire tout un plat de nouilles. En effet, le ciel était dégradé et lisse. Vincent Van Gogh n'avait pas encore repeint les estampes d'Asie. Mais la rondeur de ce soleil lui plaisait bien mieux que les cases scolaires où elle classait ses élèves, qui avaient pourtant tous des rêves fort différents et devaient, hélas, rentrer dans un avenir à taille unique et pudique pour des raisons scolaires autoritaires qui allaient à l'encontre de sa philosophie. Car elle avait une philosophie, ou plutôt, elle était la philosophie même, c'est-à-dire « philosophia », l'amour de la sagesse, l'amour de la gentillesse qui s'appelle Sophia en grec. Par conséquent, elle s'aimait elle-même, ou bien était-elle le sujet d'étude de tous les sages antiques? Les anthropologues en débattent encore. Elle décida donc de se tailler une écharpe dans l'étoffe du ciel rouge. Se promettant ainsi de ne jamais oublier une telle félicité suspendue à l'éternité, une écharpe de soins qui apporterait la magie aux aveugles perdus. Pendant ce temps, un musicien aveugle était attentif sur la colline généreuse du printemps dispersé, aux branches croissantes et hésitantes. Il vivait dans un décor miniature, mais son visage extatique et de cire était immobile, alors peut-être qu'il n'existait pas. Il n'était que le lambeau du cœur déchu du pauvre gitan qu'il avait tant choyé comme sa boule de cristal, où il avait mis tous les instants de son enfance cristallisée. « Je ne suis pas d'accord pour le désespoir !» scandait-il. C'est que l'enjeu était de taille. Le ciel infini émit un souffle de spirale. C'est alors que, n'ouvrant pas les paupières, la lumière en traversa le firmament. Un bol de nouilles géant saute et surgit du ciel rouge porté par deux mains dévouées. Les chamans en furent si impressionnés qu'ils s'écaillèrent sur place, et tous les pauvres et les enfants accoururent des caravanes. Les brochettes grillèrent dans le barbecue et l'infini rabattit son écharpe en riant. Le monticule de terre sacrée qui semblait jusqu'alors insignifiant fut paré de ruisseaux et de roches finement dressées. Le gitan solitaire, spécialisé en déplacements confortables, prévu pour les limaces à cornes des marches d'escalier, il ne savait pas qu'elles n'ont pas de pied, mais de la glu, afin de faciliter les chants dévotionnels ambulatoires en chantant les cailloux. Il annonça fièrement « Voilà, je t'avais promis un monde nouveau et beau, sans en préciser la dimension. Notre montagne creuse inaugurera des lacs pour que les pauvres enfants jouent dans l'eau de nos larmes intarissables. » « Tu es bien tragique, » répondit l'infini. « Mais où est passé mon rêve de nouilles sautées cramées ?» Le gitan répondit. « J'en ai eu l'illumination en fermant les yeux. Peut-être qu'il vaudrait mieux dormir dans la montagne pour rêver à nouveau. » C'est alors qu'un viking, avec un chapeau d'Al Capone, arriva en dansant. « Je te provoque en duel de nouilles, gitan !» s'écrie-t-il soudain. Tu as de la chance qu'il n'y ait plus de place sur cette feuille pour me répondre. « Oh, mais il y a d'autres feuilles, » répondit le gitan hébété. Les pages passent comme les jours. Le lendemain, la rue était encombrée. Le gitan se demanda s'il était tombé amoureux d'un espion du gouvernement chinois. Il se rassura en se disant « Elle ressemble plus à une mandarine qu'à un mandarin. Ô saint patron des voyageurs vikings, j'accepte le défi de nouilles. Même si j'aurais bien préparé une mandarine au canard. » Il prit sa cassolette dans la caravane et pila les pâtes qu'il fit cramer et versa tout le sachet de piment. « Malheureux ! Tu romps la longévité de nos chevelures d'ange du voyage. Dans notre culture, nous suivons le fil de la vie. » Le viking plongea ses nouilles dans la mer qu'il touillait avec sa rame. Il naviguait dans la cassolette petite, dans la caravane petite, dans les décors miniatures de la montagne petite, et tout paraissait immense. La montagne ouvrit la bouche et engloutit le viking et le gitan avec la rivière de cheveux d'ange. Question de culture, toi tu rames, tu galères, moi ça roule, ça caravane. Le gitan n'eut même pas le temps de finir sa phrase. Ils venaient d'être engloutis tous les deux par la joyeuse jeune fille goulûment. Bon, on est dans le noir, dans la grotte de la montagne creuse, frère. « Je crois qu'on est tous les deux gagnés-perdus dans de beaux draps. » La gorge de l'infini était un ancien four à chaux du temps où, au pays du loin, l'activité minière recouvrait d'un voile blanchâtre les petites cabanes des ouvriers extracteurs du calcaire. Soudain, dans l'obscurité, le viking heurta une planche à clous qu'il souleva et leurs visages s'illuminèrent. « Oh ! T'as retrouvé le trésor de la guerre des Gaules !» s'écrie le gitan émerveillé. Il croyait avoir trouvé la lumière quand un souffle gronda si fort dans la mine qu'ils crurent à un coup de grisou. Ils crurent que c'était le dragon serpent de la puissance technique refoulée qui piquait sa petite crise habituelle et se retrouvèrent éjectés de la gorge de la belle infinie sur la rivière. « Bah, qui a fait cramer les nouilles et a versé tout le piment ? Ça pique !» s'écrie l'infini. Soudain, elle eut une lèvre en forme de W, vous signifiant chaman, d'après ce qu'indiquait la vieille carapace de tortue que le gitan avait défrichée dans la grotte. Le centre de la lèvre supérieure de l'infini semblait pointu comme un bec d'oiseau, qui se poursuivait en vagues de sourires et de souspleurs, alternant courbes montantes et descendantes dans la tradition éternelle de Gaston Lagaffe. Les muscles de son visage étaient tendus pour rire et pleurer, et ses yeux plissés intensifièrent la chute du crépuscule et tomba la nuit avec un gros plouf. Le viking ramait paisiblement en pleurant et ses cheveux d'ange semblaient se poursuivre en rivière de nouilles fleuve, sous l'œil bienveillant de la montagne qui elle aussi pleurait des nouilles mais en riant à gorge déployée. Héraclite passa par là, regardant les étoiles et tomba dans la rivière. Sans exprimer la moindre émotion, il dit « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve du destin. » Oh ben, faut que je mette de l'huile d'olive sur les roues d'une charrette. Après ce bain de loin, s'écrie le gitan. Il gravissait la montagne creuse avec son grincement strident de charrette minable. À mesure qu'une limace ralentissait, la montagne grandissait et le gitan errant rapetissait. Héraclite réapparut soudain, mais au sommet cette fois, et il déclara. Permanence de la montagne creuse, la montagne est ce qui demeure. Mais celui qui gravit le chemin du calvaire doit trouver la persévérance de la durée en accrochant une étoile au ciel de l'horizon commun. Une étoile sans hâte ni excès. D'accord, d'accord, j'y vais, répondit le gitan. Les larmes de la montagne creuse engendrent le déluge. L'arbre gitan accrocha une étoile sans hâte au ciel de l'horizon, dit-il en sortant un bout de fil de fer de sa poche pour accrocher l'étoile au sommet. Et déambulant sur la cime, il scanda en marchant. Alors, quel but intemporel et durable serait l'étoile du ciel commun ? Devenir des signes, hors du domaine de la parole, être là, à côté, constant et figé, incessant ? Recoudre la déchirure de la trame bienveillante et blessée de la coexistence des rêves, des amis, croître, souhaiter la douceur dans le déluge, se souvenir que l'étoile était au départ de faire un rêve partageable, quel don imaginé, l'icône du rêve collectif, la magie de ce qui est sous nos yeux, le chaos de la coexistence inexprimable. Je suis arrivé aujourd'hui tout soudain à une sensation absurde. Je suis arrivé aujourd'hui tout soudain à une sensation absurde. Et je me suis aperçu dans un éclair intime que je ne suis personne, personne, absolument personne. Quand l'éclair a relumé là où je pensais qu'était une ville, se trouvait une plaine déserte. Et la lumière sinistre qui me montrait à moi-même n'a révélé aucune lune au-dessus d'elle. On m'a volé le pouvoir d'être avant que le monde soit. Si j'ai dû me réincarner, je me suis réincarné sans moi, sans avoir de moi réincarné. Je suis la banlieue d'une ville qui n'existe pas, le commentaire prolixe d'un livre qui n'a pas été écrit. Je ne suis personne, personne, je ne sais pas sentir, je ne sais pas penser, je ne sais pas vouloir. Je suis un personnage de roman encore à écrire, qui passe à et rien, et des faits sans avoir été parmi les rêves de qui n'a pas su me formuler. Je pense toujours, je sens toujours, mais ma pensée ne contient pas de raisonnement.